Donc, dans cette deuxième heure et quart, je vais vous parler de semi-conducteurs fortement dopés. Donc, on a fait beaucoup de choses sur les métaux dans la première heure. Maintenant, on va parler d'applications de ce type de calcul, toujours le même genre de choses, mais aux matériaux qui sont beaucoup plus les matériaux d'intérêt physique pour les applications thermoélectriques. Alors, comme je l'avais expliqué au cours 1, la plupart des matériaux thermoélectriques d'intérêt pratique sont des semi-conducteurs, en particulier le célèbre bismuth 2 tellur 3, qui ont des densités de porteurs relativement fortes. Alors, relativement fortes par rapport à des semi-conducteurs intrinsèques habituels, où on aurait 10, 16, 10, 18, et évidemment plus faibles que des densités de porteurs métalliques. Donc, le problème, c'est de décrire le transport thermoélectrique dans ce régime intermédiaire où on a soit, on va dire, des métaux avec des faibles densités de porteurs, soit des semi-conducteurs avec des fortes densités de porteurs. Donc, dans ce régime entre les deux. Alors, pourquoi est-ce que c'est ça qui est important? Alors, j'avais déjà expliqué ça au cours 1. Les métaux, comme on vient de le voir, ont des pouvoirs thermoélectriques très petits, de l'ordre de KT sur EF. Donc, ils ne vont pas être bons pour les applications. Les bons isolants peuvent avoir des pouvoirs thermoélectriques très grands, éventuellement même de l'ordre de 1000 microvolts par Kelvin, mais leur conductivité va être catastrophique. Donc, quand vous regardez le facteur de puissance, alpha carré sigma, qui est le numérateur de la figure de mérite, eh bien, du côté des métaux, c'est mauvais à cause de alpha, et du côté des isolants, des bons isolants, c'est mauvais à cause de sigma. Donc, il y a quelque part un optimum, et ça, c'est une courbe que vous allez trouver dans pratiquement tous les séminaires sur la thermoélectricité, qui vous montre le facteur de puissance, alpha carré sigma, qui est donc mauvais du côté des isolants à cause de la mobilité, et mauvais du côté des métaux, donc à grande densité de porteur, à cause du coefficient Seebeck. Donc, il y a quelque part un optimum. Alors, un des résultats du cours qui va suivre, c'est en fait de vous montrer un calcul explicite qui montre effectivement cette forme du facteur de puissance en fonction de la densité de porteur. Voilà. Et évidemment, il faut combiner ça avec la conductivité thermique, comme on le verra tout à l'heure. Alors, clairement, c'est donc dans ce régime qui est dans les limbes entre les semi-conducteurs intrinsèques et les bons métaux, que se trouvent les bons matériaux thermoélectriques. Et c'est pour ça que c'est la naissance de la physique des semi-conducteurs dans les années 50, avec des personnages historiques du domaine, comme Joffe en Union soviétique, ou Goldschmidt, qui a découvert l'intérêt de ce matériau pour la réfrigération Peltier, est née une sorte d'intérêt pour les applications de la thermoélectricité. Bien, donc ce que je vais faire, c'est que je voudrais vous montrer comment ces formules simples qu'on a obtenues par l'équation de Boltzmann s'appliquent dans le cas des semi-conducteurs fortement dopés. Et comme c'est un sujet sur lequel je n'ai aucune compétence, je me suis guidé d'un certain nombre de livres pour faire ça. Il y en a plusieurs que j'ai trouvés très utiles, donc vous les retrouverez dans les notes, je les mentionne ici. Il y a le livre de Goldschmidt, qui s'appelle Introduction to Thermoelectricity, qui est un bon livre utile sur plein d'aspects. Un livre un peu plus spécialisé, toujours avec Goldschmidt parmi les auteurs, qui détaille un peu plus ses calculs de transport. Et puis il y a deux livres de l'école soviétique, je dirais, qui ne sont pas très faciles à trouver. L'un de Fistul, qui s'appelle Heavily Doped Semiconductors, qui est entièrement consacré aux calculs de transport et au transport dans les matériaux semi-conducteurs fortement dopés, avec les différents mécanismes de diffusion, et puis le célèbre livre de Joffe, Semiconductor Thermoelements, et aussi Thermoelectric Cooling. Bon, donc je vais retourner au tableau pour vous présenter un petit peu les conséquences des expressions qu'on a établies avec l'équation de Boltzmann. cette fois dans le cas d'un semi-conducteur. Donc, on va utiliser exactement les expressions de tout à l'heure. Donc, je vous rappelle que les expressions de tout à l'heure font intervenir les moments successifs de la fonction de scattering. Donc, on devait calculer les intégrales sur l'énergie qui font intervenir la dérivée de la fonction de Fermi fois le temps de diffusion, qui peut être une fonction de l'énergie, fois la fonction de transport phi de epsilon, qui était la partie cinématique, hein, la densité d'état pondérée par les éléments de matrice du courant, avec différentes puissances ici de epsilon moins mu, 0 pour la conductivité, 1 pour le Seebeck et 2 pour la conductivité thermique. Alors pour ça, évidemment, il faut que je fasse quelques hypothèses sur mon système, parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire des calculs simples. Donc on va considérer un système qui aurait une structure de bande très simple, comme ça. Ça, ce serait l'énergie, ça serait l'impulsion. On va considérer un système qui a une bande de conduction, dont le bas est à epsilon c, et puis une bande de valence, dont le bas est à epsilon v, le haut est à epsilon v. Et dans la plupart des calculs explicites, je vais considérer le cas très simple d'une seule vallée au point gamma de la zone de Brillouin, avec ici, même la plupart du temps, une dispersion parabolique, donc de la forme epsilon c plus h bar 2k2 sur 2 mc, où mc est la masse effective des électrons dans la bande de conduction, fois epsilon, fois, disons, racine de epsilon moins epsilon c. Pardon. Donc ça, c'est la dispersion, ce qui conduirait donc à une densité d'état en racine de epsilon moins epsilon c au voisinage du bas de la bande de conduction. Bon, donc on va considérer ça, et je vais considérer en fait séparément la contribution des porteurs de type N excités dans la bande de conduction et des porteurs de type P, des trous donc, dans la bande de valence, hein. En fait, il faut combiner ces deux types de porteurs avec leur mobilité respective. Donc, je vais faire tous les calculs pour fixer les idées pour les porteurs de type N dans la bande de conduction. Et puis après, il suffit de combiner les deux. Si évidemment, on a un système où les deux types de porteurs contribuent de manière égale, ben, c'est un mauvais système pour la thermoélectricité parce que les deux Seebeck P et N se compensent. D'accord ? Donc, en général, ce qu'on veut, c'est des semi-conducteurs comme on va le voir, qui ont des gaps qui ne sont pas trop grands pour avoir des bonnes mobilités, mais aussi des gaps qui ne sont pas trop petits pour ne pas avoir des effets de compensation des deux types de porteurs. Bon. Donc, il me faut faire des hypothèses. Donc, je viens d'en faire une là sur, en gros, la forme, l'aspect cinématique du problème. Il faut également faire une hypothèse sur la manière dont ce temps de diffusion ici dépend de l'énergie. Alors, de quelle énergie on parle ? Évidemment, on va considérer une situation où j'ai peu de porteurs excités ici en bas de bande de conduction. Donc, ce qui compte, c'est la dépendance du temps de diffusion au voisinage d'ici. Hein ? C'est différent de la situation des métaux, où j'avais un niveau de Fermi, d'accord, et je regardais la manière dont le temps de diffusion se comporte au voisinage du niveau de Fermi. Là, si le niveau de Fermi est proche, il est soit carrément ici, mu, d'accord, ça c'est dans le régime semi-conducteur intrinsèque, soit quand je commence à arriver dans le régime qui m'intéresse, le niveau de Fermi est proche d'ici. Ce qui va compter, c'est la manière dont ce temps de diffusion se comporte au voisinage de epsilon c, et on va supposer ici une loi de puissance, avec un exposant qui s'appelle dans la littérature sur les thermoélectriques R. Et cet exposant R, c'est un travail théorique indépendant de décider quelle est sa valeur. Il dépend du mécanisme de scattering. Alors, il est facile de montrer. Je n'aurai pas le temps de le faire. Je pensais le faire à la fin du cours, mais vous le trouverez dans les notes, que pour de la diffusion sur des phonons acoustiques, R vaut moins 1,5. Donc le temps de diffusion se comporte comme 1 sur racine d'epsilon moins epsilon c. pour de la diffusion sur des impuretés, si ces impuretés sont neutres, R vaut aussi moins 1,5. Si ces impuretés sont ionisées, R vaut plus 3,5. C'est-à-dire si le potentiel de Coulomb créé par, si le potentiel créé par ces impuretés est un potentiel de Coulomb non écranté, R vaut plus 3,5. Donc ça, c'est de la théorie du scattering. On peut établir ces expressions-là. Vous trouverez des appendices dans les notes qui établissent ça, parce que je ne vais manifestement pas avoir le temps de le faire au tableau. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement développer ces expressions, mais développer ces expressions de manière appropriée au régime qui nous intéresse, c'est-à-dire quand on a soit le potentiel chimique ici, donc ça c'est le régime de semi-conducteur intrinsèque, soit quand le potentiel chimique commence à se rapprocher du bas de la bande, où on commence à mettre beaucoup de porteurs dans la bande de conduction. Alors, ces calculs sont assez simples. On va donc simplement reprendre les expressions précédentes. Alors, pour fixer les idées, par exemple, si j'ai ici cette bande parabolique, donc je vais supposer cet exposant R, je vais supposer que ma fonction de transport, elle se comporte comme un certain coefficient C phi fois epsilon moins epsilon C puissance un exposant phi. Qu'est-ce que c'est cet exposant phi? Dans le cas d'une bande parabolique, c'est facile de voir que cet exposant vaut 3,5. Ça, c'est pour une bande parabolique. Je vous le montre brièvement. Si vous avez donc cette relation de dispersion, avec donc une densité d'état qui est en racine d'epsilon moins epsilon c, ça veut dire que la vitesse, qui est donc h bar k sur mc, vous voyez que comme K2 est en epsilon moins epsilon c, K est en racine de epsilon moins epsilon c. Et donc comme la fonction de transport fait intervenir le carré de la vitesse fois la densité d'état, vous trouvez tout de suite que la fonction de transport est en epsilon moins epsilon c puissance 3,5. Ça, c'est dans le cas d'une bande parabolique. Mais on peut garder cet exposant si ça vous amuse, pour gérer aussi le cas d'une bande qui ne serait pas nécessairement de forme parabolique au voisinage du bas de la bande. Alors, l'exercice est très simple. Il consiste tout simplement à reprendre les expressions qui sont là et à développer les choses. Mais cette fois, vous voyez qu'il faut développer pour epsilon proche de epsilon c, puisqu'il n'y a pas d'état en dessous d'epsilon c. Donc, cette intégrale, pour ce qui concerne les porteurs de type n, elle est bornée par epsilon c ici. Et clairement, les choses se passent au voisinage d'epsilon c. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement développer ça au voisinage de epsilon c. Donc on va poser epsilon, donc on va poser par exemple que mu, le potentiel chimique, c'est égal à epsilon c plus delta mu. Donc delta mu, c'est quelque chose qui va être négatif dans le cas intrinsèque, quand le potentiel chimique est proche du milieu ici, on a très très peu de porteurs. Et puis quand le système va commencer à devenir métallique, avec des densités de porteurs importantes, delta mu va devenir positif, c'est-à-dire que le niveau de Fermi va passer ici. Et on cherche à décrire ce crossover entre le régime intrinsèque et le régime métallique. Voilà. Et donc dans ces intégrales sur l'énergie, je vais à chaque fois poser epsilon égale epsilon c plus quelque chose, hein. Et comme c'est epsilon moins mu qui intervient, vous voyez que j'ai epsilon c plus delta epsilon, disons, moins epsilon c plus delta mu. Ces fonctions de Fermi, ici, elles font intervenir epsilon moins mu sur kt. Donc on va toujours faire ces fameux changements de variables qui font intervenir cette variable sans dimension epsilon moins mu sur kt. Donc si je divise tout ça par kt, vous voyez que ce que je trouve ici, c'est ce delta epsilon sur kt moins delta mu sur kt. Et donc, en fait, c'est cette variable delta mu sur kt qui est la position du potentiel chimique compté à partir du bas de la bande de conduction en unité de kt qui est le paramètre clé du problème. Donc, ce paramètre clé du problème, je vais l'appeler eta, delta mu sur kt, qui est aussi donc mu moins epsilon c sur kt, qui est le paramètre clé dans ce problème-là. Et toutes les intégrations que j'ai à écrire vont se faire sur cette variable sans dimension delta epsilon sur kt. Alors, si vous faites ce changement de variable dans les intégrales de transport, vous pouvez me faire confiance sur les calculs. Je les ai refaits et ils donnent le même résultat que dans les livres, donc ça doit être à peu près correct. Par exemple, on peut regarder comment ça se passe pour L1, H bar L1, 1, qui donc est juste l'intégrale de moins df sur d epsilon, taux de epsilon, phi de epsilon. Ce que vous trouvez, c'est que vous aurez le coefficient, un coefficient C qui vient du coefficient qui est en face du taux de epsilon ici, qui a une dimension bizarre, mais je vais mettre toutes les dimensions correctement à la fin. Et puis le coefficient C phi ici, qui est devant la fonction de transport, fois KT à la puissance R plus phi, l'exposant qui contrôle le taux de diffusion et l'exposant qui contrôle la loi de dispersion de la fonction de transport s'additionne, fois une certaine intégrale, une certaine fonction, que j'appelle dr plus phi de eta, où dr plus phi dn de eta, eh bien c'est tout simplement donné par l'expression suivante, c'est en fait les moments, c'est le moment d'ordre n, de la dérivée du facteur de Fermi. Alors on peut, donc c'est cette fonction qu'on avait tout à l'heure, hein, le facteur de Fermi est comme ça, je regarde son moment d'ordre n, et ceci, pardon, centré sur état bien sûr, ça dépend de état, comme ça. Voilà. Et en fait ces fonctions dn de état, elles sont, on peut les relier facilement à quelque chose qui dans la littérature s'appelle fn de eta, la relation étant que dn de eta, c'est n fn moins 1 de eta, ça se voit simplement en intégrant par partie, où la fonction de Fermi, les intégrales de Fermi fn de eta, qui interviennent par exemple dans toute la thermodynamique du gaz parfait de fermion, sont données par cette définition-là. Voilà, donc là j'ai relié ça à ces intégrales de Fermi qui sont conventionnellement utilisées dans la littérature sur le sujet. Donc vous voyez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un facteur de Fermi sans dimension, on a normalisé epsilon par kt, hein, x c'est donc epsilon sur kt, qui est centré autour de mu ou delta mu en unité de kt. Et c'est les moments successifs de cette quantité qui définissent ces fonctions de Fermi. Bon, alors, si vous faites ça, vous trouvez donc ici, par exemple, en utilisant cette relation, que ça, c'est R plus phi F, R plus phi moins 1 de eta. Et donc, vous avez calculé comme ça la conductivité en fonction de la position du potentiel chimique. Et clairement, ce que vous vous attendez à trouver, c'est que dans le régime intrinsèque, cette conductivité est thermiquement activée en exponentielle de moins delta sur le gap, de moins delta sur kt, et dans le régime métallique, quand état commence à devenir positif, eh bien, vous devez retrouver l'expression de Drude pour un métal. Alors, je vous montre sur transparent, parce que c'est quand même inutile de faire tous ces calculs qui sont un peu pénibles au tableau, je vous montre tout simplement les expressions qu'on obtient. Donc, tous les coefficients de transport s'expriment en fonction de ces intégrales de Fermi, et tout calcul fait, ce que vous trouvez, ce sont les expressions suivantes. Ici, j'ai écrit l'expression du pouvoir thermoélectrique et du nombre de Lorentz électronique, c'est-à-dire du rapport kappa électronique sur T à sigma. Et donc, vous voyez que ce sont des expressions très explicites, enfin très explicites, très concrètes, elles ne sont pas encore très explicites, mais elles sont très concrètes, qui sont des expressions simplement de cette variable état, qui est le potentiel chimique en unité de kT. Et ces expressions font intervenir ces rapports d'intégrale de Fermi avec un indice qui dépend toujours de ce paramètre R plus phi qui combine le type de scattering qu'on a et le type de variation de la fonction de transport qu'on a. Donc voilà les expressions pour le pouvoir thermoélectrique et pour le nombre de Lorentz. Et voilà les expressions pour le nombre de porteurs, leur mobilité et la conductivité. Donc le nombre de porteurs, c'est donné par cette expression-là, pour tous les gens qui se souviennent de leur cours sur les semi-conducteurs, il y a toujours ce facteur 2mkt sur h2 puissance 3,5, qui est en fait de l'ordre de grandeur de la densité de porteurs qu'on obtient quand état commence à être proche de zéro, c'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup de porteurs dans la bande de conduction. À ce moment-là, l'ordre de grandeur caractéristique de ce nombre ici, hein, c'est le nombre de porteurs au moment du crossover entre le régime intrinsèque et le régime métallique. Alors en fait, si vous calculez ce terme ici, ce préfacteur, pour KT de l'ordre de 300 Kelvin et une masse effective de porteurs de l'ordre de la masse de l'électron, eh bien, ce qui est un peu plus grand que la plupart des semi-conducteurs, eh bien, ce que vous trouvez ici, c'est que ce nombre est de l'ordre de 10 puissance 19 porteurs par centimètre cube. Et donc, il ne faut pas chercher plus loin, c'est de là que vient ce nombre magique de 10 puissance 19 ou 10 puissance 20 porteurs par centimètre cube, qui est le nombre privilégié, vous l'avez vu apparaître dans tous les séminaires, qui est le nombre optimal, où le facteur de mérite, le facteur de puissance à son maximum. Il vient tout simplement du fait que le régime intéressant, c'est quand on commence à avoir l'énergie de Fermi par ici, mais qu'on n'a pas mis trop de porteurs dans la bande de conduction pour devenir métallique. Et à ce moment-là, en gros, le nombre de porteurs est donné par ça. Hein, c'est là d'où vient ce 10 puissance 19, 10 puissance 20. Bon, donc ça, c'est la densité de porteurs. Si vous prenez la limite état très négatif de cette expression, vous allez trouver quelque chose ici qui varie comme exponentielle de moins état. Donc ça, c'est la loi d'activation thermique des porteurs d'un bande de conduction. Si vous prenez la limite, au contraire, où état est très positif, donc je vais faire un peu ces deux limites au tableau dans une minute, vous allez retrouver, cette expression va tout simplement vous redonner la relation qui existe dans un métal entre l'énergie de Fermi et le nombre de porteurs. Donc cette expression a le bon goût d'interpoler entre le régime de semi-conducteur intrinsèque et le régime métallique. Bon, alors vous pouvez obtenir donc la conductivité. Là, j'ai écrit les choses pour une bande parabolique parce que c'est un peu pénible autrement. Donc la conductivité, elle est donnée par une conductivité sigma 0 que j'ai normalisée ici. Donc cette conductivité sigma 0, c'est en fait le nombre de porteurs dans le régime de crossover, donc c'est ce facteur ici, fois la mobilité de mes électrons. Donc c'est n e mu, hein, très classiquement, où je mets le nombre de porteurs dans le régime intermédiaire. Donc sigma 0, vous pouvez aussi y penser comme la conductivité du système, une estimation de la conductivité du système, quand on est au voisinage du régime de crossover. Et puis, fois ce facteur ici, hein, alors de nouveau ce facteur ici, il va nous donner, quand état est très négatif, un facteur exponentiel de moins delta mu sur kt, qui dit que la conductivité est toute petite dans le régime isolant. Alors, si vous tracez cette courbe, donc vous utilisez cette expression de sigma, vous utilisez cette expression de alpha, et vous tracez ces courbes, et ce que vous obtenez, c'est ça. Donc cette fois, ça, ce n'est pas un schéma, c'est vraiment un calcul avec ces expressions, qui illustre très bien le point essentiel, qui est que quand état est très négatif, c'est-à-dire quand le potentiel chimique est par ici, donc dans le régime où on a un semi-conducteur intrinsèque, eh bien, vous voyez que ce qui se passe, c'est que le pouvoir thermoélectrique, qui est la courbe bleue, est très grand. Ici, c'est moins alpha, parce que j'ai fait tous les calculs pour des porteurs de type N, donc alpha est négatif. Donc, le pouvoir thermoélectrique est très grand. En revanche, la conductivité, qui est la courbe jaune, est catastrophiquement petite. Ça, c'est le exponentiel de état qu'il y a dans cette expression. C'est la loi d'activation. En revanche, quand je vais à état grand, qui veut donc dire que j'ai mis le potentiel chimique loin là-haut dans la bande de conduction, je retrouve donc un métal, hein, et donc dans cette limite, j'ai un pouvoir thermoélectrique qui s'écroule complètement, et une conductivité qui devient grande. Donc quand vous calculez le facteur de puissance, eh bien le facteur de puissance, il a un maximum, c'est la courbe rouge, pour des états au voisinage, disons, d'en gros de 0, entre moins 1 et 1. Donc c'est quand le potentiel chimique commence à être ici, que j'ai la situation qui nous intéresse. D'où cette notion, Q que les matériaux d'intérêt pratique, au moins les matériaux classiques semi-conducteurs pour les applications thermoélectriques, sont des matériaux auxquels on doit penser soit comme des métaux avec une petite surface de Fermi, ou des semi-métaux, soit comme des semi-conducteurs très fortement dopés, avec encore une fois une densité de porteur caractéristique qui est contrôlée par ce facteur-là, hein, et qui est en pratique de l'ordre de 10 puissance 19 à 10 puissance 20 porteurs par centimètre cube. Donc voilà le message sur le facteur de puissance. Alors si vous voulez être un tout petit peu plus précis et regarder un peu plus dans le détail ces expressions dans les différents régimes, donc c'est assez facile de faire le développement de ces expressions, si je retrouve de quoi effacer, dans ces différents régimes. Vous voyez que quand eta est négatif, très négatif, donc ça c'est dans le régime semi-conducteur intrinsèque, eh bien ce terme devient très grand, donc Fn de eta se comporte comme exponentiel eta. Donc exponentiel eta, ne vous y trompez pas, c'est tout petit parce que eta est très négatif, c'est exponentiel de moins delta mu sur kt, d'accord, fois un nombre qui est en fait gamma de n plus 1, mais peu importe. Et donc vous pouvez reporter ça dans toutes les expressions et faire un développement dans ce régime. Ce que vous obtenez à ce moment-là, c'est que le coefficient Seebeck devient égal à kb sur e fois eta moins, je l'ai écrit ici pour une bande parabolique, r plus 5 demi. Donc vous voyez, il y a deux termes dans cette expression. Il y a un terme ici qui est delta mu sur kt. Dans ce régime, delta mu est négatif. Hein, et donc alpha est négatif également, ce qui correspond bien à un pouvoir thermoélectrique de type n lié aux électrons dans la bande de conduction. Et vous voyez que ce terme est le terme dominant, il est grand. Donc c'est la notion qu'un semi-conducteur a un grand pouvoir thermoélectrique. Et puis ici, il y a un terme constant qui a une certaine importance, mais qui est une correction à ce terme-là. Et puis de même, vous pouvez calculer le nombre de Lorentz électroniques. Alors je dis électronique parce que je n'ai pas mis la conductivité thermique, hein, c'est purement le rapport sigma kappa sur T électronique à sigma. Et ce que vous trouvez ici, c'est, toujours dans le cas d'une bande parabolique, c'est kb sur e au carré fois r plus 5 demi. Donc vous voyez que c'est encore une valeur qui est différente de la valeur pi carré sur 3 qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est le nombre de Lorentz dans le régime semi-conducteur intrinsèque. Et c'est un nombre qui n'est pas pi carré sur 3 et qui dépend du mécanisme de scattering. Hein, donc vous voyez en particulier, dans le cas le plus fréquent, qui est soit de la diffusion sur des phonons acoustiques, soit sur des impuretés élastiques, écrantées, où R vaut moins 1,5, ce nombre vaut 2 et pas pi carré sur 3. Alors je ne sais pas si la mesure du nombre de Lorentz, ça c'est une question que j'aimerais bien poser à des expérimentateurs sur le sujet. Je ne sais pas si la mesure du nombre de Lorentz dans ce régime est suffisamment précise pour renseigner sur le mécanisme de scattering qui est à l'œuvre. Mais a priori, quand on regarde cette expression naïve, on aurait envie de dire qu'une mesure précise du nombre de Lorentz doit renseigner sur ça. Évidemment, c'est le nombre de Lorentz électronique, donc il faut enlever la conductivité thermique, c'est toujours délicat. Mais c'est le régime basse température quand même, donc c'est peut-être pertinent. Bon, si vous prenez la limite haute température de ces expressions, donc cette fois la limite est à très positif, qui est la limite où on va retrouver un système métallique, vous pouvez vérifier que toutes ces expressions redonnent des expressions parfaitement raisonnables qui sont celles que j'ai établies tout à l'heure pour les métaux, en particulier la densité de porteur et l'énergie de Fermi vont avoir leur relation habituelle. Le nombre de Lorentz, cette fois, va avoir à la limite pi carré sur 3, que vous attendez, etc., etc. Il y a juste une chose qui ne marche pas très bien, c'est la conductivité, parce que j'ai fait une hypothèse, ici, pour la dépendance en énergie du temps de scattering, qui est très raisonnable pour le régime qui m'intéresse, mais qui n'est pas du tout raisonnable, en fait, vraiment, pour le régime métallique, vraiment. Dans le régime métallique, par exemple, dans le cas d'interaction électron-électron, il faudrait tenir compte de la dépendance en température de cette chose et également dans le cas de la diffusion par les phonons acoustiques dans un métal, c'est très important de prendre en compte la bonne dépendance en énergie et en température du temps de scattering. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la formule établie pour la conductivité dans le régime vraiment très métallique soit très juste dans cette approche. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Bon, donc je continue un petit peu cette histoire. Le mécanisme de scattering contrôlé par cet exposant R a une certaine importance. Ici, vous voyez, j'ai tracé le pouvoir Seebeck avec... c'est des courbes qu'on a fait avec Charles. C'est le pouvoir Seebeck, le pouvoir thermoélectrique en fonction de cet exposant R pour différentes valeurs de l'énergie de Fermi. Vous pouvez me prendre état égal 0, qui est le bas de la bande de conduction. Et vous voyez qu'il y a quand même une dépendance assez sensible dans le mécanisme de scattering en question. Donc ça, c'est un peu une interrogation que j'ai d'ailleurs sur les calculs ab initio du pouvoir thermoélectrique qui sont faits, puisqu'en général, ces calculs ab initio sont faits en prenant cet exposant R égal à 0, c'est-à-dire pour un temps de diffusion qui ne dépend pas de l'énergie. Et donc, vous voyez qu'en faisant ça, donc, on peut très bien faire une erreur de l'ordre de 30 ou 40%, ou si les alphas sont plus petits, même un facteur 2, sur le Seebeck, par rapport au mécanisme probablement plus pertinent, qui est celui d'une interaction électron-phonon. Donc ça, c'est un petit peu une mise en garde sur l'utilisation d'un temps de scattering constant dans les calculs. Bon, alors, ceci étant dit, ce à quoi je veux en venir, c'est vraiment d'utiliser ça pour essayer d'orienter, de rationaliser le fait que certains types de semi-conducteurs sont bons pour la thermoélectricité. Alors, pour faire ça, il nous faut regarder la figure de mérite. Alors, la figure de mérite, évidemment, elle ne dépend pas que des propriétés électroniques. Elle dépend fortement des propriétés thermiques. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tracé le facteur de puissance. Le facteur de puissance, lui, ne dépend que des quantités électroniques, puisque c'est alpha carré sigma. La figure de mérite, elle, dépend de la conductivité thermique. Donc, si je regarde la figure de mérite sans dimension, ZT, c'est T fois alpha carré sigma sur kappa. Hein. Ici, je vais mettre donc kappa sur T, qui est la conductivité thermique divisée par T. Donc, vous voyez que je peux écrire ça comme alpha carré. La conductivité, c'est la somme de la conductivité électronique et de la conductivité du réseau. Donc, ici, je vais avoir le nombre de Lorentz électroniques plus un terme qui fait intervenir kappa lattice, kappa réseau sur T, divisé par sigma, si je ne me suis pas trompé. Donc, vous voyez que les propriétés du système, donc ça, je peux l'extraire des calculs précédents, enfin de la modélisation précédente, et la figure de mérite que je vais obtenir à la fin va dépendre de manière cruciale de la conductivité thermique du réseau. Et une bonne partie de la recherche actuelle sur les thermoélectriques consiste à chercher des matériaux qui aient une conductivité thermique du réseau basse, de manière à avoir des grandes figures de mérite, des figures de mérite le plus grandes possible. Donc il y a un paramètre très naturel, vous voyez, cette expression suggère d'introduire un paramètre qui va être un paramètre qui contrôle les propriétés du matériau et qui va nous orienter dans la recherche de bons matériaux, qui est ce paramètre ici, tout simplement, où je vais mettre pour la conductivité un ordre de grandeur typique de la conductivité dans le régime de crossover où état est zéro. D'accord ? Donc on commence à toucher le bas de la bande. Et ça, c'est un paramètre qui a été introduit très tôt dans ce domaine, dans les années 50, dans cet article de Chasmar et Stratton, qui est défini comme KB sur E au carré fois sigma 0, le sigma 0 que j'avais tout à l'heure, hein, qui est une fonction de la température, sur kappa L sur T. Donc c'est l'inverse d'un nombre de Lorentz sans dimension, encore une fois, qui compare la partie purement thermique, purement réseau de la conductivité thermique, à un ordre de grandeur typique de la conductivité ou de la mobilité, sont presque égales dans ce régime, quand le potentiel chimique est près du bas de la bande. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, donc avec les expressions précédentes, je connais alpha, je connais le nombre de Lorentz électroniques, et donc pour différentes valeurs de bêta, je peux tracer les courbes de la figure de mérite en fonction de la densité de porteur ou en fonction de eta, et voilà ce qui sort. Donc vous avez ici la figure de mérite sans dimension, tracée en fonction de la position du niveau de Fermi pour différentes valeurs de ce paramètre bêta. Alors les matériaux actuels, les meilleurs matériaux actuels, pour le refroidissement au moins, comme bismuth 2, tellure 3, eh bien, ont des bêta de l'ordre des 0,4-0,5. Et donc vous voyez que c'est la courbe jaune ici, vous voyez qu'effectivement ça correspond à une figure de mérite qui est d'ordre 1 dans le régime au mieux, c'est-à-dire dans le régime où le potentiel chimique est par ici. Et c'est ce régime qui correspond donc à des densités de porteurs de l'ordre de 10 puissance 19, 10 puissance 20 porteurs par centimètre cube pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Si on était capable de faire des matériaux qui aient une conductivité thermique beaucoup plus basse de manière à aller vers des bêta plus grands, eh bien ces courbes vous montrent qu'on serait amené à travailler dans un régime de densité de porteurs plus faible, dans un régime où l'énergie de Fermi serait plus proche serait plus à l'intérieur du gap, et donc on aurait des densités de porteurs plus faibles, on serait plus dans un régime de semi-conducteur intrinsèque classique. Vous voyez qu'il faudrait aller travailler dans des régimes de état plus négatifs. Ceci étant dit, cette courbe, elle a aussi un côté un peu inquiétant, parce qu'elle vous montre que quand vous augmentez bêta, donc probablement bêta égale 1,6, c'est un matériau de rêve, je ne sais pas s'il sera jamais réalisé, mais regardons quand même cette courbe, vous voyez que la zone où on est proche du maximum ici est relativement faible. Donc ça veut dire que dans les matériaux actuels, on peut, disons, contrôler la densité de porteur pas si précisément que ça, mais par contre, si on était amené à aller travailler dans ces régimes de semi-conducteurs intrinsèques, il faudrait contrôler plus précisément la densité de porteur pour rester près de la figure de mérite optimale. Bon. Enfin, quoi qu'il en soit, le message général de cette histoire, si on regarde tout ça, c'est qu'il faut travailler avec des matériaux qui aient une conductivité thermique. Je vais éteindre l'éclairage parce que la fin du cours va être entièrement sur transparent. Une conductivité thermique la plus faible possible. Donc, travailler sur la conductivité thermique de réseau, donc travailler sur les phonons. Une mobilité suffisamment grande, parce qu'on peut gagner sur le paramètre bêta en augmentant sigma 0. Et également, si vous vous rappelez l'expression de cette mobilité ou de ce sigma 0 en fonction des paramètres du problème, eh bien, on a l'impression que les grandes masses effectives de porteurs sont bonnes. Donc, grande masse effective, ça ne veut pas forcément dire que pour chaque minimum local de la bande, ce qu'on appelle les vallées dans les semi-conducteurs, la masse effective est grande, mais ça veut dire que la moyenne des masses effectives qui va intervenir dans la densité d'état doit être plutôt grand. Donc en particulier, ça va être favorable d'avoir des semi-conducteurs qui ont beaucoup de vallées, de manière à avoir une densité d'état qui croît vite avec l'énergie. Voilà, donc on voit comme ça comment, avec de la modélisation assez simple, on peut s'orienter vers des choix de matériaux, diminuer la conductivité thermique, augmenter la mobilité, avoir des masses effectives suffisamment grandes, donc ça oriente vers des semi-conducteurs à relativement petit gap pour avoir des grandes mobilités et être capable de mettre ces 10 puissance 20 porteurs par centimètre cube, avec beaucoup de vallées, mais quand même pas avec des trop grands gaps, des trop petits gaps, pardon, parce que si on a des trop petits gaps, on va être pollué par la compétition entre porteurs de type P et porteurs de type N, et cette compétition a des effets intéressants sur la conductivité thermique que je ne vais pas parler ici, mais qui s'appelle les effets de bipolaire. C'est le bipolar disorder des semi-conducteurs fortement dopés. Donc ça, c'est très mauvais. Donc il faut des conducteurs avec un petit gap, mais pas trop petit, beaucoup de vallées, des matériaux avec des très basses conductivités thermiques, Et pour avoir des très basses conductivités thermiques, on peut faire, et c'est ce qu'on verra dans les séminaires sur les scoterodites, on peut aller chercher des systèmes avec des cages, avec deux types d'entités dont l'une diffuse très bien les phonons, par exemple. Mais évidemment, une idée naturelle, c'est d'aller vers des éléments très lourds. Hein, puisque si on a des éléments lourds, eh ben, on va avoir des phonons, des fréquences de phonons appropriées pour avoir une conductivité thermique basse. Donc vous voyez que tout ça nous oriente assez bien vers effectivement le type de semi-conducteurs qui sont utilisés. Voilà par exemple le cas de bismuth telluride, qui est quand même le matériau classique pour le refroidissement pelletier, essentiellement un des passés dans les applications concrètes depuis 50 ans, je dirais malheureusement. Donc on avait eu une petite introduction dans les séminaires de Franck Gascoin à ce matériau. C'est un matériau fortement anisotrope avec des plans tellures et des plans bismuth. Et si vous regardez la conductivité thermique de différents matériaux semi-conducteurs sur une échelle log, parce que comme toute conductivité, c'est un truc qui varie beaucoup. Alors cette conductivité thermique, elle a été ici représentée en fonction d'une quantité empirique qui fait intervenir la température de fusion du solide à une certaine puissance. Je ne vais pas faire un cours là-dessus aujourd'hui, on pourra y revenir dans un cours ultérieur l'année prochaine. La température de fusion du système, la densité volumique du système et le nombre atomique de l'élément. Et donc vous voyez qu'effectivement, des matériaux avec des températures de fusion très très élevées, comme le diamant, ont des conductivités thermiques extrêmement grandes. On sait bien que le diamant est un des matériaux qui a la meilleure conductivité thermique. C'est un très bon isolant électrique et un très bon conducteur thermique. Et puis en revanche, bismuth 2 tellure 3, qui est ici, hein, qui est un élément lourd, eh bien, une conductivité et une température de fusion faible, eh bien, une conductivité thermique relativement basse, de l'ordre du watt par mètre. Donc relativement basse. Vous voyez, vraiment plus basse que la plupart des semi-conducteurs qui sont représentés sur cette courbe. Ça veut dire aussi que il y a une certaine compétition, puisque si vous allez chercher des éléments lourds qui vont avoir une conductivité thermique basse, vous allez avoir une température de fusion faible. Donc ça veut dire que ça ne va pas être très bon pour les applications haute température à la génération d'énergie. D'ailleurs, c'est bien le cas, effectivement. Quand on utilise bismuth 2 tellure 3, fonctionne bien à température au voisinage de l'ambiante pour le refroidissement, mais à haute température, le matériau se dégrade. Sa température de fusion est faible. Bon. Donc, quelques propriétés de base de ce matériau qui ont été déjà mentionnées par Franck Gascoin, mais pour vous montrer qu'il appartient bien, qu'on comprend bien à partir de ces considérations pourquoi c'est un bon matériau. Donc, il a un gap d'énergie qui est effectivement relativement petit, de l'ordre de 0,13 eV. Entre parenthèses, ça veut dire que si on allait travailler avec ce matériau à des températures plus élevées que l'ambiante, eh bien, les propriétés se dégraderaient à cause de la compétition des effets bipolaires. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Beaucoup de vallées, donc au total, les masses effectives, la masse effective qui intervient dans les densités d'état est relativement grande, de l'ordre de la masse de l'électron typiquement, alors que dans chaque vallée individuelle, on a des masses effectives plus faibles. Dans toutes les mesures expérimentales que je connais sur ce matériau, en général, les gens disent que c'est soit purement R égale moins 1,5, c'est-à-dire des phonons acoustiques et des impuretés élastiques, avec peut-être un peu de diffusion sur des impuretés ionisées, donc R égale plus 3,5, mais ça c'est le terme qui est généralement invoqué, et puis donc une conductivité thermique à l'ambiante de l'ordre de 1 watt par mètre par Kelvin. Alors j'ai repris ici quelques transparents du séminaire de Franck Gascoin qui montraient ses propres mesures. Donc il avait montré le coefficient Seebeck en fonction de la concentration de porteurs déduite par effet Hall. Donc vous voyez des coefficients Seebeck de l'ordre de 200, en gros 200 microvolts par Kelvin, pour une concentration de porteurs qui est dans cette gamme 10 puissance 19, 10 puissance 20 par centimètre cube. Alors en fait, ce 200 microvolts par Kelvin, il se comprend très bien à partir des courbes que j'ai montrées tout à l'heure ici. Vous voyez que si je travaille pour état entre 0 et moins 1, quelque chose par là, eh bien j'ai effectivement des alphas ici qui vont être, disons, de l'ordre de 3, et 3 fois 8, 24, c'est 83,6 microvolts par Kelvin, KB sur E. Donc 3, ça donnerait 250, 2, ça donnerait 170. Donc effectivement, tous les matériaux typiquement d'intérêt pratique ont des IBEC de l'ordre de 200 microvolts par Kelvin à cause de ça. Donc voilà le cas de, bismuth de tellure 3. On avait vu aussi des propriétés de transport très anisotropes, donc c'est pour ça qu'il faut orienter les systèmes. Si vous vous êtes intéressé, par une comparaison plus quantitative entre ce type de modélisation simple que j'ai décrite et les mesures sur, sur le tellure de bismuth, ou le bismuth de tellure, je ne sais pas comment on dit, eh bien, il y a cet article de Thierry Kaya, qui a déjà une vingtaine d'années, où il y a un effort pour comparer de manière un peu quantitative, par exemple, la mesure du coefficient Seebeck en fonction de la résistivité entre les mesures et un ajustement théorique par le genre de formule que j'ai établi tout à l'heure. Alors, on peut aussi, évidemment, vouloir aborder ces choses-là par des calculs ab initio de structure électronique et de manière assez étonnante, c'est quelque chose qui s'est développé relativement récemment. Et en particulier, David Singh, à Oak Ridge, a fait beaucoup de travaux dans cette direction-là. Donc ça, c'est un article, vous voyez, assez récent, 2 ans, dans lequel il étudie, par des calculs de type DFT-LDA plus l'équation de Boltzmann, exactement comme ce que je viens de décrire, les propriétés thermoélectriques de à la fois le bismuth, le tellure de bismuth et le séléniure de bismuth. Et donc voilà le genre de choses qui sortent de ces calculs. Donc vous voyez la structure de bande de bismuth 2 tellure 3 est en rouge. Vous voyez l'existence de tous ces minimums locaux ici. Donc ça, c'est le signe qu'il y a effectivement pas mal de vallées. Vous voyez que le gap qui est obtenu ici dans les calculs LDA, donc c'est quelque chose qui serait entre ça et ça peut-être, ou par ici. Donc c'est effectivement de l'ordre de 0,15 EV, quelque chose comme ça. Le séléniure de bismuth, lui, il a un gap plus grand, à peu près d'un facteur 2, autour de 0,3 EV. Ce qui a conduit ces auteurs à proposer le fait que le séléniure de bismuth pouvait être utile à plus haute température puisqu'on n'allait pas être pollué par les effets bipolaires puisque le gap est un petit peu plus grand. Voilà, vous voyez ici la densité d'état calculée pour ces deux matériaux. Entre parenthèses, la forme, donc ça c'est dans la bande de valence. Entre parenthèses, la forme ici est loin d'être racine carrée de epsilon moins epsilon v, donc il faudrait mettre cet exposant phi ici, c'est une clairement pas vraiment une bande parabolique. Et voilà le type de calculs qui sont obtenus donc en calculant cette fonction de transport et en prenant le rapport de ces moments dans l'approximation d'un temps de relaxation constant. C'est-à-dire ce qui est fait dans ces calculs, c'est qu'on met R égale 0. Donc je voudrais juste faire 2 remarques sur ces courbes, donc extrait de l'article de David Singh. Ça, c'est donc le Seebeck pour le sélénure et pour le tellure en fonction du nombre de porteurs. Donc vous voyez des IBEC de l'ordre de 200 microvolts par Kelvin dans le régime de densité de porteur dont on a parlé, donc tout à fait compatible avec l'expérience. Ici, j'ai même mis la courbe de Franck Gascoigne. Et si vous voulez comparer ce range ici, vous voyez ici, les mesures étaient entre 2,5 et 5 10 puissance 19 porteurs par centimètre cube. Donc ça correspond à ce range ici, j'ai désigné par le cercle rouge. Et donc vous voyez ce comportement en gros linéaire, mais variant quand même assez peu, du coefficient Seebeck, se compare, je dirais, honnêtement, aux mesures. En fait, ici, c'est un peu plus bas, mais bon. Et puis ici, ce qu'on observe, c'est que quand on va à des plus basses densités de porteurs, eh bien, dans le cas du tellure, il y a une redescente du Seebeck, et ça, c'est dû au fait qu'il y a ces porteurs qui nous embêtent, où le gap est trop petit. Et puis, en revanche, ici, comme celui-là a un gap plus grand, ben ça se passe mieux. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si j'avais à souligner un certain nombre de messages qui résultent de la deuxième moitié du cours d'aujourd'hui, c'est que vous voyez que l'optimisation, la recherche d'un matériau optimal pour faire un bon thermoélectrique, c'est vraiment un problème délicat d'optimisation de matériaux dans lesquels différents paramètres jouent des rôles pratiquement antagoniste. Il faut des gaps petits, mais pas trop petits, etc. C'est en ce sens un problème vraiment intéressant et assez interdisciplinaire de physique du solide. Il faut essayer de jouer sur plusieurs paramètres qui n'ont pas forcément envie de jouer ensemble. En particulier, il y a tout un domaine dont je n'ai pas du tout parlé dans ce cycle de cours, sauf de manière allusive, qui est l'optimisation ou la recherche de matériaux avec des conductivités thermiques très faibles. Donc ça, on va en entendre parler dans les deux séminaires de mai sur les scutérodites. Et je pense que je reviendrai sur cette question des propriétés thermiques dans le cycle de cours de l'an prochain, puisque c'est une question que les gens se posent aussi dans le contexte des systèmes mésoscopiques, comment les systèmes mésoscopiques conduisent la chaleur, qui est finalement assez reliée à ces questions ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Thank you.